patriarche, que nous verrons cette alliance qui est promise. C'est-à-dire que différentes consignes qui seront données dans les lignées des patriarches, vous irez là où vous ne serez pas chez vous, pour faire ce qu'il y a à faire. Mais vous reviendrez. Il y a une protection. Elle est donnée à Abraham, elle est donnée à Isaac, elle est donnée surtout à Jacob. Bon, et si on sent que cette protection ne joue pas, c'est que c'est plus le temps. Or, il n'y a pas de doute que cette protection ne joue pas. Il n'y a, comme communauté juive, d'identité organique que des petits ghettos artificiels en France. Jusqu'à présent, il n'y a pas de judaïsme compatible avec la culture française, et qui soit authentiquement juif ou authentiquement français. Il y a eu un cas particulier, c'est le 19e siècle alsacien. Ça, c'est tout. Et nous vivons tous sur leur acquis. Je ne sais pas si vous savez, tous nos mouvements de jeunesse ont eu pour chef et fondateur des juifs alsaciens. Je pense que vous le savez. Et pour le moment, on ne va rien se dire. Qu'est-ce que c'est? La rue Copernic. Bien. Alors voilà donc ce qui arrive à Enoch. Eh bien, on va le lire dans le texte, dans le chat même. Alors, regardez bien Enoch. Comment le Midrash peut dire que cette invocation du nom de Dieu, Azucha l'Ikrov et Semachem, c'était l'idolâtrie? Je vous ai donné une explication par le raisonnement déjà, oui. On a attribué le nom du vrai Dieu à des idoles. Regardez-le dans le texte. Alors on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Ça veut dire on a invoqué le commencement du nom. Mais pas le nom tout entier. Bien. Et il faudra attendre Abraham pour qu'il y ait écrit Vaïkra et Sébastien. Il a invoqué le nom de Dieu. Pas il a commencé à invoquer le nom de Dieu. Alors pour Abraham, vous retrouvez le verset. Et Abraham, là, il a invoqué le nom de Dieu. C'est un signe de l'esprit. Vous allez noter d'ailleurs le verset. Vous voyez ce que je dis? Le commencement de la chose, eh bien, c'est cela qui permet au Midrash de dire que c'était l'idolâtrie. Ici c'est Az Uchal Mikrovesemach. Tandis que pour Abraham, c'est qu'il a vraiment invoqué le nom de Dieu. Bien, c'est clair pour tout le monde? Vous voyez donc ce qui se passe là. Nous avons affaire avec la lignée de Seth à la lignée du Sauveur. Mais voilà que ce Sauveur de la lignée de Seth s'handicape lui-même. Le risque, c'est effectivement ce vertige dont je vous parle, à force de descendre pour s'occuper de celui qui est en bas, on risque de se perdre. Hein? Seulement voilà, on l'a fait intentionnellement. Et encore une fois, cette stratégie qui consiste à dire qu'il faut enseigner un substitut de la vérité dans l'espoir que cela mène à la vérité elle-même, c'est incompatible avec ce dont il s'agit dans ce problème. Et encore une fois, historiquement, nous savons que lorsque Israël a été en contact direct avec les Goïms, il a été capable d'en faire des Juifs. On aura nuancé tout cela. Ce n'est pas nécessaire d'en faire des Bnei Israël, de Shomrei Mitzvot en tant que Bnei Israël. Ça peut suffire d'en faire des Bnei Noir, hein, mais en tout cas pas de leur fabriquer une idolâtrie qui serait l'idolâtrie d'Israël. Ça, c'est l'aventure chrétienne. Et si vous vous posez la question, mais ça a peut-être servi à quelque chose, alors moi je vous demande à quoi? Je vous demande à quoi? Lorsque les Français faisaient la guerre avec les Allemands, et les Allemands avec les Français, c'était deux pays chrétiens. Qui est à faire la guerre pour des raisons X ou Y? Enfin quand même, ça prouve que le christianisme est un échec. Puisque le christianisme est la religion d'amour, la religion de la paix entre les hommes, et qui ont fait la guerre? Les chrétiens entre eux. Ça veut dire que le fait qu'ils étaient des chrétiens n'a pas suffi à remplir l'objectif du christianisme. Donc, bon, le christianisme a échoué.
Où on peut expliquer les guerres entre Ephraïm et Yehuda après le Malchut Shalom?
Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Pourquoi il y a pu y avoir des guerres?
Ils ont décidé entre eux, quoi.
Bien sûr, mais c'est pas du tout. En tant qu'ils étaient tous les deux des peuples de la Torah, il y en avait un qui était devenu idolâtre et qui s'est perdu en tant que tel, et un qui était un peuple de la Torah. Et lorsque celui-là aussi n'a plus été un peuple de la Torah, mais c'est pas escalité d'eux. Et puis, c'est beaucoup plus important que ça. Ce que je vous dis, c'est un phénomène de civilisation globale. Il n'y a pas espoir que, dans la manière d'être du christianisme, les prophéties des prophètes d'Israël se réalisent. Alors que nous les voyons concrètement se réaliser avec une autre manière d'être, qui est le peuple juif de la Bible. Est-ce que vous... Enfin, vous réfléchirez à ce problème, et nous aurons d'ailleurs probablement à le reprendre, mais je crois que il faut bien vous rendre compte que là, c'est un bilan irréversible, définitif. 2000 ans d'éducation de ce genre, voilà où cela a mené. Tout ceci, encore une fois, pour répondre, ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir des saints, des héros, des gens de bonne foi à l'échelle individuelle parmi les chrétiens. Mais ça signifie que cette manière de concevoir la civilisation humaine est vouée à l'échec. Vous comprenez? Ça, pour répondre en tout cas à cette indication de tout à l'heure, peut-être c'était la stratégie des Pauliniens. Voilà. Non, c'est pas du tout cette stratégie. Il y a eu une véritable hérésie, on a changé de religion et on a voulu convertir les goïms à cette religion anti-judéenne. Je vous dis, la véritable différence entre ces hommes qui ont lu la Bible et nous, c'est-à-dire d'un côté les musulmans et les chrétiens, et puis nous, c'est pas tellement leur croyance. Ça, on pourra les arranger un peu, un jour. C'est le fait qu'ils sont pas juifs. Vous y êtes? Au fond, on reproche pas un chrétien d'être chrétien, on lui reproche d'être goy. C'est-à-dire son christianisme n'arrive pas à lui enlever le fait qu'il soit goy. Bon. Alors ça, c'était la première indication que je voulais vous donner dans le texte. Il y en a une seconde, extrêmement importante. C'est que, vous voyez, tout le problème qui est en cours dans la lignée de Caïn, c'est le problème moral. Est-ce que c'est bien clair, hein? Alors que le problème qui est en cours dans la lignée de Seth, c'est le problème religieux. Est-ce que vous voyez la différence, hein? Ça veut dire, l'histoire qu'il faut réussir, sa problématique est au niveau des problèmes de la moralité, des questions de la moralité. Il s'agit de faire réussir des problèmes aussi importants que la coexistence des personnes. Ça, c'est un problème moral. Comment Caïn et Abel peuvent vivre dans le même monde? Comment deux sujets humains peuvent vivre dans le même monde? Et c'est cela qui échoue. La société de Seth apparaît comme une société qui n'a pas à résoudre le problème moral, mais qui a à résoudre le problème religieux, c'est-à-dire le salut pour l'histoire de la société de Caïn. Est-ce que c'est bien clair? Les hommes de la lignée de Caïn sont jugés dans les rapports entre eux, tandis que les hommes de la lignée de Seth sont jugés dans les rapports avec Dieu. Vous avez compris la différence, hein? C'est-à-dire la dimension d'une humanité dont le problème est le problème religieux apparaît comme corollaire à l'histoire d'une humanité dont le problème est le problème moral. C'est déjà, schématiquement, c'est déjà la différence entre l'histoire d'Égoïm, et l'histoire, c'est l'histoire d'Égoïm, et l'histoire d'Israël. Et l'histoire d'Israël, c'est l'histoire du salut. Du salut de l'histoire d'Égoïm. Est-ce que c'est bien clair? Et comprenez bien que ça ne peut pas être une coïncidence qu'à travers les siècles, toute cette humanité d'Égoïm se soit et diagnostiquer le fait que s'il y a un salut possible pour l'humanité, ça passe par Israël. De quelque manière que ce soit, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? Oui? Cette insistance avec laquelle l'Égoïm, tant les musulmans que les chrétiens, et quelle que soit leur manière d'être anti-juif, eh bien, se réclame du salut d'Israël. Vous diagnostiquez cela? Eh bien, lorsque nous ferons, si vous voulez, la carte d'identité d'Israël, de l'identité d'Israël, si vous voulez, alors nous retrouverons cela. C'est qu'il y a une première étape où le problème moral est résolu dans le principe, alors on accède au problème religieux. C'est-à-dire, le problème qu'Israël a à résoudre, ce n'est pas celui de Caïn, c'est celui de Seth. Et c'est pourquoi, si vous voulez, dans la formule la plus simple, le Messie qui est attendu en Israël est attendu en tant qu'il sera le Messie de l'humanité tout entière. Ce qu'il y a à sauver, ce n'est pas Israël. Ce qu'il y a à sauver, c'est l'égoïme. Si vous voulez, Israël est sauvé dans le principe. C'est le sauveur. Et quand on est le sauveur, on ne se conduit pas de n'importe quelle manière. Mais ce qu'il y a à sauver, c'est l'égoïme. Vous voyez pourquoi la perspective religieuse d'Israël et celle d'Égoïm ne peut pas coïncider. Vous comprenez pourquoi? Alors nous allons voir maintenant dans le texte d'où vient cette différence de nature entre la lignée de Caïn et la lignée de Seth. Et ensuite nous reprendrons le dernier passage qui montre ce qui se passe entre les deux lignées et qui empêche le salut. Alors, vous reprenez d'abord la fameuse expression qu'il y a pour définir le modèle de l'homme dans le verset 26 du premier chapitre. C'est aujourd'hui qu'on va commencer à l'étudier en détail, l'homme à l'image de Dieu. Vous allez mettre ça entre guillemets, enfin, c'est pas exactement ce que le texte veut dire. Alors, le texte porte, verset 26 du chapitre 1. À propos de la différence de nature entre la lignée de Seth, qui va être appelée les fils de Dieu, et la lignée de Caïn, qui va être appelée les fils de l'homme. Nous avons déjà vu cela, rapidement, oui. Alors, nous allons voir un peu en détail ce que signifie cette expression à l'image de Dieu, dès le premier verset où cela est employé. Alors, Vayomer Elohim na'aseh Adam betzalmenu kidmotenu. Il y a deux problèmes, entre autres. D'abord, ce pluriel. Et Dieu dit, faisons l'homme. Et ensuite, deuxième problème, à notre image. Je vais vous citer à ce propos le midrash le plus essentiel pour ce problème. Puisqu'il y a na'asé, un pluriel, qui littéralement veut dire na'asé, nous allons faire. Faisons dans le sens d'une invitation à. Faisons ensemble. C'est ce qu'implique le pluriel. Alors, Midrash pose la question, à qui Dieu s'est adressé lorsqu'il dit faisons? Puisqu'il n'y a pas encore d'homme, puisqu'il s'agit de la formulation du projet de la création de l'homme. Alors, Midrash répond, Dieu s'adresse aux anges. Quels anges? Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que les anges? Voilà. Alors, je vais vous dire des choses très simples d'ailleurs, parce qu'au fond, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence essentielle qu'il y a entre l'idée de Dieu comme créateur et l'idée du monde comme créature, c'est tout simplement l'unité d'un côté, la multiplicité de l'autre. C'est-à-dire que, du point de vue métaphysique même, l'unité absolue, c'est la manière d'être du créateur. La multiplicité, c'est la manière d'être de la créature. Vous y êtes, dans la créature, il y a des niveaux d'être, il y a des structures d'être qui sont différentes et qui, dont le minimum commun de définition, c'est la multiplicité. Le monde est un univers, c'est-à-dire le monde est diversifié. Ce terme de univers indique très formellement l'unité d'un divers. Univers, ça veut dire l'ensemble de ce qui est divers. C'est un concept grec qui n'existe pas d'ailleurs en hébreu, c'est un faux concept. L'univers, ça n'existe pas. Je vous donne deux choses. L'une, bon, Ou bien c'est le divers, ou bien c'est l'un. Mais l'un du divers, ça n'existe pas. Vous y êtes ? Bon. En hébreu, on dit les cieux et la terre. Ah, bon, disons, en grec, on dit l'univers. En latin, oui. Bon. Ça veut dire l'unité du divers. Donc, ce qui définit le monde, c'est la multiplicité. Alors, la relation entre cette unité du Créateur et la multiplicité de la créature, la relation est donc elle-même multiple. Je vais vous faire un petit schéma pour vous faire comprendre ça. Entre le monde qui est défini par la diversité et l'unité de la volonté du Créateur, il y a des médiations diverses et à différentes échelles de récapitulation. Vous comprenez ? Ça veut dire que tout se passe comme si à l'intérieur de la volonté unique de relation entre le Créateur et la créature qui est diverse, il y a l'ordre de volonté partielle ou de volonté qui est d'échelle de récapitulation plus ou moins générale. Bon. Alors lorsque la Torah veut désigner la relation entre la volonté totale du Créateur et tel ou tel phénomène particulier dans le monde, elle nomme cette relation partielle un malach, un ange. Est-ce que c'est compris ? Non ? Comment pas ? Non, je vais reprendre la même. Je vais vous donner des exemples. Si je veux désigner la relation totale, absolue, entre l'être du Créateur et le monde, alors j'emploierai le terme le plus général, le projet le plus général du Créateur pour le monde, c'est de lui donner l'être. Alors le nom, le schéma, le nom de la relation entre Dieu et la totalité du monde, c'est le nom de l'être, de Shema Vaya. C'est la relation absolue. Comment se nomme la relation entre Dieu et le monde à l'échelle la plus générale? Cette relation entre Dieu et le monde à l'échelle la plus générale se nomme l'être. C'est son nom. Vous voyez? Bon. Comment se nomme, par exemple, la relation entre Dieu et un phénomène dans le monde, la maladie? La maladie qui est une manière d'être du monde. Eh bien, elle se nomme la guérison. Alors, c'est le nom d'un ange qui s'appelle Raphaël. Ça veut dire la guérison que Dieu donne. C'est Dieu lui-même, mais par rapport à ce phénomène précis dans le monde. Vous voyez ? La multiplicité vient d'en bas et l'unité vient d'en haut. C'est pas difficile à comprendre. Hein, je vais terminer. Vous voyez ? Ça veut dire, les phénomènes sont d'un ordre plus ou moins général dans le monde. Par conséquent, la projection de la relation de souveraineté du Créateur, si je prends en particulier tel ou tel ordre de phénomène dans l'être du monde, sera partiel. Mais c'est Dieu lui-même, sous l'aspect de cette focalisation-là. Vous y êtes ? Ah, c'est pourquoi on dit que les anges sont le véhicule de la volonté du Créateur par rapport à tel ou tel aspect de la créature. Oui ? Mais il n'y a pas Dieu et les anges. Il n'y a que Dieu tout seul. Seulement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que le monde est multiple. Alors, si je veux désigner la relation de Dieu unique avec tel ou tel aspect partiel du monde, apparaît ce qu'on appelle un malach. Mais le malach, c'est la volonté de Dieu lui-même. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il est absolument interdit d'adresser un culte quelconque aux anges, bien que nous savons qu'ils existent. Vous avez compris ? C'est-à-dire, dans le sens de Dieu à la créature, il y a toute une hiérarchie d'anges. Oui ? Mais dans le sens de la créature à Dieu, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu seul. C'est clair ? Bon, c'est la manière la plus simple d'aborder le sujet, mais je voudrais que le compreniez clairement. Les anges, ça n'existe pas. Mais pourtant, il n'y a que ça. Alors, comment je peux dire cette contradiction ? C'est parce que dans le sens de Dieu à moi, il y a toute une série de hiérarchies. Oui ? Mais dans le sens de moi à Dieu, il n'y a rien du tout. Il n'y a que Dieu. Vous y êtes ? Comment d'où vient cette explication ? Parce qu'en plus, il faut qu'elle vienne de quelque part. C'est la lecture hébraïque du mot malach. Malach, ça veut dire chargé de mission. Oui. Envoyé, littéralement. Ça veut dire c'est la volonté de Dieu lui-même en tant qu'elle concerne tel ou tel point de mon être. Vous comprenez? Si je suis malade, Dieu se révèle à moi en tant que Raphaël. Mais c'est Dieu qui se révèle. Raphaël, ça n'existe pas. Qui c'est ça, Raphaël? C'est Dieu lui-même. C'est moi qui suis malade. Tu vois le problème? Pardon? On donne pas un nom d'homme. Par piété, on a nommé des hommes Raphaël. Raphaël, ça veut dire Dieu guérissant. Comment? J'entends pas, pardon? Vous croyez que le docteur guérit? Le docteur soigne. Et c'est Dieu qui guérit. Alors, par piété, on peut dire d'un docteur qu'il porte, il est porteur de la guérison qui vient de Dieu.
Est-ce que les maladies sont des concepts ou des certitudes?
Ce sont des réalités. Mais ce sont des réalités dans un sens, pas dans l'autre. Comment je vais vous expliquer ça? C'est pourtant pas difficile à comprendre. Allez voir. Non, c'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu par rapport à moi, le monde, mais définie chaque fois dans le niveau de généralité dont je parle. Enfin, il n'y a pas Dieu et les anges, du point de vue, si vous voulez, d'une existence essentielle. Enfin, il s'agit de l'émanation de la volonté de Dieu, telle qu'elle m'atteint. Si je suis très bas, elle m'atteint sur un point très restreint. Si je suis plus haut, elle m'atteint dans une généralité plus grande. Plus je m'élève dans l'échelle du mérite, et plus l'ange qui est le mien est de plus en plus grand. Quand je suis arrivé haut de l'échelle, c'est Dieu lui-même qui est en haut de l'échelle. Sur l'échelle, c'est les anges. Vous voyez l'échelle de Jacob. Mais en haut, c'est Hachem qui sera là. Vous comprenez? Bon, alors, il y a là le risque d'une idolâtrie absolue, parce que le risque d'une idolâtrie vraie, c'est la raison pour laquelle ça nous est interdit. Vous comprenez? Du sens qui va de Dieu qui est en haut à moi qui suis en bas, il y a toute une hiérarchie. Oui? Non, elle est réelle à la mesure de ma réalité. Je vais essayer de vous comprendre. Alors, il dit la Kadusha et puis il disparaît. Il disparaît parce que moi je suis plus haut, alors il n'y a plus rien en bas. Si je suis plus bas, je vois plus haut, même si je suis plus haut, il n'y a rien en bas. Vous comprenez? Bon, vous y réfléchirez. En tout cas, qui montait, qui descendait. Oui? Bon, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au haut de l'échelle, il n'y a plus de malheur. C'est Dieu lui-même. Voilà. C'est ça que je comprends. Bon, il y a une circulation d'être, bien entendu. Vous comprenez? Alors, la différence entre Israël et les Goïms, c'est que Israël n'a pas de malheur. Israël est directement face à face avec le Créateur. Vous savez cela? Il y a un degré inférieur où Israël n'est pas tellement Israël, alors il a quand même un malach, et qui s'appelle Michaël. Et que ça veut dire Michaël en hébreu? Ça veut dire qui est comme Dieu. Michaël. Ça veut dire que... Et c'est les mêmes lettres que malach. Michaël, oui. Ça veut dire que Michaël a une seule chose à nous dire, regardez juste un peu plus haut. C'est compris? Alors, revenons donc à notre problème. Si nous avons défini les malachim comme étant les volontés du Créateur par rapport à tel ou tel stade de la créature, il est évident que dès le projet de la création des créatures apparaît ce tribunal des malachim qui vont juger la créature. Vous y êtes? Dès que le projet de Adam apparaît corollairement à ce projet de Adam, le malach de ce Adam, au stade où il se trouve, au commencement du projet. Vous y êtes? Bon. Alors, vous voyez que le malach de Adam ne peut se dire qu'au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir pendant tout le temps de l'histoire du Adam des niveaux de généralité du point de vue du jugement par la volonté de Dieu qui sont les malachim. Et quels sont ces malachim? C'est les absolus par rapport auxquels l'histoire de l'homme va être jugée. Vous comprenez cela? Bien. Alors voilà pour la question du pluriel, et nous reviendrons là-dessus plus tard.
Comment pourrais-tu prendre un chiffre?
Attends, tu vas trop vite, toi. Bien. Alors, maintenant, que signifie ce mot de Tselem? Alors, on traduit habituellement « faisons l'homme à notre image ». Donc, Dieu s'adresse au Malachim et dit « faisons l'homme », je vous dis en hébreu « betzalmenu ». Alors, il y a une première erreur dans cette erreur de traduction « à notre image ». C'est le « notre », il faut bien comprendre. « Notre », ce n'est pas un pluriel de majesté. Dieu s'adressant aux anges et disons « faisons l'homme à mon image à moi », mais on dit « nous par majesté ». C'est pas ça. « Faisons l'homme à notre image, à nous ensemble ». Mais ça le met nous. Bon. Ça veut dire que dans l'homme, il y a à la fois ce principe de multiplicité que représente l'ensemble des malachim, chacun est une valeur différente, oui, et d'autre part le principe de l'unité. Bien, ça veut dire que l'homme est donné à une sorte de, comment dire, de problème. Ou bien il arrive à réaliser le projet du Créateur, c'est-à-dire à unifier ces différentes valeurs qui le composent, ou bien il n'y arrive pas. Dans le cas où il y arrive, ça s'appelle Tselem. Il a réalisé le projet du Créateur dans l'unité. Oui. Dans le cas où il n'y arrive pas, ça s'appelle Demut, c'est-à-dire dans la ressemblance. Alors je vous explique la différence. Si vous avez un ensemble, il y a l'unité de l'ensemble, et d'autre part, le détail de cet ensemble. Oui. Alors, un s'appelle Tselem, le projet dans son unification. L'autre s'appelle Demut, c'est ce même projet, mais uniquement encore dans le détail des composantes, c'est uniquement la ressemblance du projet. Et dans tout cela, il n'y a pas encore l'image de Dieu. Ce qu'il y a, c'est que l'homme va être créé dans le projet que Dieu se fait de lui. C'est-à-dire littéralement à la ressemblance du projet qu'il se fait de lui. C'est le mot de dessin, E-I-N, et pas de dessin, I-N. Ça veut dire, nous allons faire l'homme selon notre dessein. Il y a qui nous est le Créateur. Donc, si ça fait que l'ange, nous avons fait ça. Et alors voilà le problème. Ça veut dire, nous allons faire l'homme d'après le Créateur. Et l'homme va être fait à la ressemblance de ce Créateur. Le Créateur, c'est le projet. C'est l'être du Mashiach. Ça veut dire que l'homme est créé à l'image du Messie, qui est l'homme achevé, qui est l'homme qui coïncide avec le projet du Créateur. Ils n'ont pas la peur. C'est pas que l'homme est créé à la ressemblance de Dieu, ça n'a aucun sens. Nous allons voir pourquoi. L'homme est créé à la ressemblance du projet que Dieu a fait pour lui. Et qu'est-ce que ce projet? Ce projet, c'est l'homme achevé, c'est l'homme réussi. C'est l'homme tel que Dieu veut le voir exister en fin de compte. C'était bien clair. Oui. Alors, t'as compris? Si l'homme est plus dirigé vers le Tselem, on l'appelle Tzadik. S'il est plus dirigé vers le Tzemout, on l'appelle Racha. Vous voyez l'enjeu? Plus l'homme est dirigé vers l'unité des valeurs, plus il réalise le Tselem. Plus on l'appelle Tzadik. Inversement, s'il est dirigé vers la dispersion des valeurs, si vous voulez, l'hypertrophie du détail où chaque valeur est incompatible avec l'autre, alors ça fait le côté du dégoût. Est-ce que c'est clair? Alors, je pense que du point de vue du vocabulaire, il faut évacuer complètement le mot de image. et garder pour célèbre le mot de projet, de dessin, et pour Demuth le mot de ressemblance. L'homme est créé à la ressemblance d'un projet qu'il doit réaliser. Mais ce projet, c'est le Machia. Alors, vous avez compris à la fois le problème du pluriel. Il y a l'unité et ses composantes, et d'autre part, le problème du dessin à réaliser, c'est-à-dire que l'homme doit obtenir, mériter d'être comme l'image que Dieu s'est fait de l'homme. S'il y a image, c'est le célèbre qui est l'image que Dieu se fait de ce que doit être l'homme. Et l'homme est à la ressemblance de cette image. Est-ce que c'est clair? Ah oui, c'est exactement l'inverse. Alors je vais vous dire tout de suite pourquoi on ne peut pas dire que l'homme est à l'image de Dieu dans le sens habituel, parce que juste la fin du verset, c'est « Il les créa mâle et femelle ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? En Dieu, il y a mâle et femelle. On n'est plus dans la Bible. Regardez bien là. Et Dieu créa l'homme selon son projet. Selon le projet de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il le créa. Et si ça voulait dire à son image, ça veut dire que l'homme qui est mâle et femelle est à l'image du Créateur qui serait mâle et femelle? Dans la Torah, il n'y a pas de déesse. Ce serait une drôle d'idée. Vous comprenez? C'est pas possible de lire comme ça. Ça y est? Vous avez l'air assommé là d'un coup. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la créature est à l'image du Créateur dès qu'on entend que la créature est mâle et femelle? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Créateur, il y a mâle et femelle? À quoi on pense? Bien. Ça y est, nous y sommes. Alors, je relis le verset. Naase Adam Betzalmenu, Kidmutenu. Deuxième nuance. Nous allons faire l'homme Betzalmenu dans le Tselem. Kidmutenu comme le Demuth. Regardez bien. Oui. Et effectivement, verset 7. Vaibra Elohim et Adam Betzalmu. Ça veut dire que l'identité de l'homme telle qu'il le lui donne, telle qu'il la lui donne, est plus dans l'ordre du Tselem que dans l'ordre du Demuth. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ce Demuth? C'est le problème que l'homme a à résoudre. Il est à la fois comme les anges le projettent et comme Dieu le projette. Comment les anges le projettent? Les anges sont les absolus. Et chacun est différent l'un de l'autre. Et Dieu, c'est l'unité au-delà de ces absolus-là. Vous y êtes? Bon. Alors voilà le problème de l'engendrement des hommes. Après Adam Harishon, après le premier homme, ou bien un homme engendre sa postérité dans l'ordre du Demuth, ou bien il l'engendre dans l'ordre du Tselem. Oui. Alors on apprend notre part que Caïn a été engendré dans l'ordre du Demuth, alors que Seth a été engendré dans l'ordre du Tselem. Je vais vous donner le verset, on l'a vu je crois ensemble. C'est au début donc du chapitre 5. Alors Seth a été engendré, si vous voulez, dans l'ordre du projet du Créateur, tandis que Caïn n'a pas été engendré dans l'ordre du projet du Créateur. Vous voyez la différence? Alors, c'est la raison pour laquelle on appelle la lignée de Caïn les Bene Ha-Adam, tandis que la lignée de Seth est appelée les Bene Ha-Elohim. Mais les deux sont les enfants de Adam. Les premiers, c'est les enfants de Adam avant la Tshuva, on les appelle les Bene Ha-Adam. Les deuxièmes sont les enfants de Adam après la Tshuva, on les appelle les Bene Ha-Elohim. C'est-à-dire, dans le premier cas, Adam a engendré Caïn dans l'ordre de sa ressemblance à lui, tandis que dans le deuxième cas, il a engendré Seth dans l'ordre de la ressemblance que Dieu a projetée pour lui. C'est pourquoi le verset le précise. Vous y êtes ? Donc, la lignée de Seth est bien une lignée d'identité supérieure à la lignée de Caïn. C'est bien compris ? Bon. Alors, je t'écoute. Jusque-là, ça va ? Alors, c'est ce que dit Rachid. Ça, c'est dans le verset du chapitre 5. Oui.
Mais... Bon, Adam a été créé dans le monde d'Elohim et dans très bien. C'est comme... Alors, mais... est dans le
oui. Et regarde bien que le verset 3 complète cela, justement, en disant qu'il est engendré dans l'ordre du Tselem. Tselem de Adam.
Oui, mais le premier pour Adam Arishon. Oui. Pas pour les enfants de Adam, mais pour Adam Arishon. Donc, verset 1, il y a Bidmout Elohim.
Oui, ça veut, dire, avant, ça veut dire comme Adam a été engendré, Bidmout Elohim. Ça veut dire que Seth a été engendré comme Adam a été créé, à l'image du Tselem et du Dmout Elohim. Tandis que Caïn, non.
Verset 1 parle pas de Seth, il parle de Adam.
Oui, et c'est, mais le verset qui concerne Seth, le verset 3.
Non, à part non, le premier.
Bon, alors reprends tout, si tu veux. Depuis le premier. Evayas, Bidmoutou. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que Seth est dans le modèle de Adam, alors que Caïn n'est pas dans le modèle de Adam. Je vous montre ça comme ça. À la ressemblance du Tselem. Mais entre ça et ça, il y a une distance. Et Caïn est créé à l'image de Adam là. Tandis que est créé par Adam à sa ressemblance à lui, c'est-à-dire à la ressemblance du Tselem. Ça veut dire que est une identité humaine d'un tout autre ordre que l'identité de Caïn. Vous voyez ? Donc, dès le point de départ, nous voyons qu'il y a une différence d'essence entre la lignée de Seth et la lignée de Caïn. Alors maintenant, on peut généraliser tout cet enseignement d'aujourd'hui. C'est que dans les deux lignées se joue simultanément la destinée de l'homme. C'est bien évident. Hein? Mais il y a deux attitudes de l'histoire complètement inverses l'une de l'autre. Dans la lignée de Caïn, il faut partir du point le plus inférieur pour essayer d'arriver au point le plus supérieur. C'est ça l'objet des engendrements. Et c'est l'histoire qui se passe chez l'égoïsme. Oui ? Bon. Dans la lignée de Seth, c'est l'inverse. On part de l'identité la plus supérieure pour descendre aider l'identité précédente dans sa remontée. Et ça, ce sera l'histoire qui sera vécue par l'identité d'Israël. Alors, si vous avez bien compris cela, c'était l'objectif de ce que je voulais vous faire comprendre pendant tout ce premier trimestre. C'est le point de départ pour apprendre le reste. Est-ce que c'est bien clair ? Ça veut dire qu'il y a égalité théorique entre la lignée de Caïn et la lignée de Seth. Il faut réussir le Adam. Tout ça, c'est dans le même bateau. C'est l'histoire du système solaire. Bon, c'est l'histoire de la Terre. Il faut réussir cet être qui s'appelle Adam. Mais il a deux dimensions. Une qui est en cours d'histoire, c'est l'égoïme. On part d'un point de départ zéro, si vous voulez, pour arriver au Tselem. L'autre est en cours d'histoire en Israël. On part du Tselem pour aller aider l'histoire des autres. Oui ? Et la réussite ne peut être qu'ensemble. Parce que c'est le problème de Adam qu'il faut résoudre. Vous y êtes ? Alors nous avons le plan en préface, si vous voulez, de l'histoire d'Israël, qui va commencer premièrement Noah, deuxièmement Abraham, etc. Nous avons le plan en préface parce que c'est le bilan de toute une histoire qui a déjà échoué. Et ça veut dire que c'est la structure de base de toute histoire, de tout cycle historique à qui la Torah doit être proposée. Vous avez bien compris cela ? Attendez, je voudrais répéter. Ne croyez pas que que du point de vue de la divinité humaine, un descendant de Caïn soit moins homme qu'un descendant de Seth. Seulement voilà ce qu'il a fait de lui. Vous y êtes ? Les deux, c'est l'identité humaine, mais elles n'ont pas la même polarité. Un a, si vous voulez, le modèle déjà expérimenté par ses propres ancêtres, les Abos, c'est le Tselem Elohim. Et puis il faut sauver l'histoire humaine. L'autre, il a ce modèle comme objectif. Vous voyez que l'allure des chaînes de la civilisation et de la culture sont exactement inverses dans l'identité d'Israël et dans l'identité d'Égoïme. Ensemble, ils font l'histoire de l'homme. Est-ce que c'est compris? Bon, ça vous permettra de débroussailler l'ensemble des problèmes dont nous devons parler par la suite. Alors jusque-là, c'est clair? Oui? Bon, nous verrons les questions de détail, mais d'abord je veux savoir si le schéma général est bien compris. Bien, alors il faut savoir qu'on peut passer d'une lignée à l'autre. On peut passer d'une lignée à l'autre. C'est important de le savoir. Alors, maintenant, si vous avez des questions, on va les voir.
Pour le problème de Malachi, dans Rachid, qui vient après Adam.
Oui.
Il dit, en mettant tout sur la question de l'Américain, il fait chez Adam au vide-mot à Malachim. Donc, il a une ressemblance avec le Malachim, d'une part. C'est-à-dire que le Malachim, ça existe. D'autre part, il dit,
Il a pris conseil.
Mais il n'existe pas, le Malachim.
Mais si, alors, si tu avais compris que l'identité humaine est à l'image de ce que je vous ai appelé les différents absolus qui vont juger cette histoire de l'identité humaine. Et je vais vous raconter d'ailleurs le contenu de cette prise de conseil, comment ça s'est passé. Mais ne l'enregistre pas parce que je ne vais pas citer Betty Jouk. Je vais dire simplement l'idée générale. Alors je vais vous raconter un midrash qui raconte le dialogue entre Dieu et les mâles. Peut-être ça vous éclairera mieux. Mais vous allez voir dans la suite de Rachid qu'il a expliqué comme ça. Lorsque Dieu a projeté de créer l'homme, alors le Midrash nous dit que l'ensemble des anges qui ont apparu en foule, hein, parce qu'il y a un ange pour chaque action humaine, il y a un ange pour chaque situation humaine, pour chaque manière d'être homme. Donc le projet de créer l'homme fait apparaître dans le monde des anges, si vous voulez, tous les anges possibles et imaginables. Et les Midrash dit se sont groupés en quatre catégories. Autour d'un chef de file, un c'est la vérité, l'autre c'est, vous connaissez le Midrash, l'autre c'est la charité, le troisième c'est la justice, et le quatrième c'est la paix. Il y a quatre chefs de file des absolus, de ces absolus qui vont juger l'histoire humaine, et puis ils n'étaient pas d'accord entre eux. Alors, si je me souviens bien, la paix et la justice, on dit qu'il ne faut pas qu'ils le créent. Et la charité et... Non, pardon, je me trompe. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Non, la vérité et la justice, on dit qu'il ne faut pas qu'ils le créent. Et la charité et la paix, on dit... Alors c'est l'inverse, attendez, effacez tout cela. La vérité et la paix, on dit qu'il ne faut pas qu'ils le créent. Et la charité et la justice, on dit qu'ils le créent. Qu'est-ce que ça veut dire? Notez bien que je ne me trompe pas. Hein. Et il y a des versets pour ça, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel est cet être qu'il s'agit de créer qui s'appelle l'homme? C'est un être qui doit être libre, puisqu'il doit être éprouvé. Est-ce qu'il mérite d'exister ou pas? Ce que les anges ne sont pas. Les anges ne sont pas libres, puisqu'ils sont les volontés de Dieu. Bon. Alors, c'est pour la même raison que ceux qui disent non et ceux qui disent oui ont eu leur attitude. Qui est-ce qui a dit non? C'est la vérité et la paix. Et la vérité dit, il est plein de mensonges. Alors c'est incompatible avec la vérité, moi je ne veux pas qu'on le crée. La paix, il est plein de guerre, il est plein de machloquettes, il est plein de querelles. Alors on ne le crée pas. Mais la charité a dit, il est capable de charité, alors qu'on le crée. Et la justice a dit, il est capable de justice alors qu'on le crée. Mais pourquoi il est capable de mensonge, il est capable de charité, pourquoi il est capable de querelle, il est capable de justice, c'est parce qu'il est libre. Chaque fois, c'est parce qu'il est libre. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Dès que le projet d'un être libre apparaît, alors les différents absolus sont en contestation. Certains sont satisfaits parce que, puisque l'homme est libre, alors il pourrait être charitable. Mais d'autres ne sont pas satisfaits parce que, puisque l'homme est libre, alors il pourrait être menteur. Vous comprenez? Alors, le Midrash continue en disant, donc voilà la scène où Dieu prend conseil, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il prend conseil? Parce qu'il y a toujours autant d'absolus pour et autant d'absolus contre. Ça veut dire que philosophiquement, l'homme est un impossible. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que si nous voulons juger l'homme par les critères philosophiques absolus, on s'aperçoit que c'est un être monstrueux. Son existence est métaphysiquement indéfendable. Vous y êtes? Bon, alors qu'est-ce que Dieu fait? Pendant qu'ils sont en train de dire oui, non, il prend la vérité et il la met sous le boisseau, comme on dit. C'est-à-dire qu'il la jette par terre. Hein? Et il y a un verset pour ça. Il y a un verset qui dit « Et tu as jeté la vérité à terre. Hein? » Pourquoi? Comme ça, ça ne fait plus que deux contraintes. Alors il peut le créer. Pourquoi? Parce qu'il faut que la vérité se taise pour que l'homme puisse exister. Tant que la vérité réclame ses droits, on ne peut pas lire les journaux. Hein? Ça veut dire, si on juge l'homme en disant « Bon, on le crée quand même », il faut que la vérité se taise. Il faut que la vérité est contre. Et alors, Midrash continue en disant que tous les anges se sont révoltés. Il dit comment? Sans la vérité, nous, on n'existe plus. Qu'est-ce qui fait que telle valeur est une valeur? C'est premièrement la vérité. Alors, si tu fais taire la vérité, nous, on n'a plus rien à dire. Alors, Dieu ajoute, le verset suivant, la vérité germera de la terre. Ça veut dire doucement, à travers l'histoire, et quand la vérité pourra dire, d'accord, l'homme peut exister, j'accepterai de vous entendre. Alors, ce Midrash est très profond. Comment? Pardon? Emet ne'eret tismar. Bon. Alors, un peu de charité, que nous puissions suivre l'analyse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pendant tout le temps que l'histoire dure, on ne peut pas faire le jugement de l'homme. Pourquoi? Parce que dès qu'on fait le jugement, la vérité va dire, pas question. Vous y êtes? Il n'y a qu'à lire les journaux. Bon. On n'acceptera d'entendre la vérité qu'à la fin. Quand elle pourra dire, maintenant je sais que l'homme peut exister. Vous suivez là-bas ?